Bien, merci, messieurs, dames, s'il y a un monsieur. Voilà. Donc, je suis content de vous rencontrer avec Serge Javaloyes. Serge Javaloyes, qui est devenu Serge Javaloyes,
oui, parce
puisque, contre son habitude, il a, pour la première fois, écrit un roman en français. On le connaissait comme écrivain occitan, auteur de romans, de nouvelles, etc., et militant aussi occitan, quoi. Autrement dit, champion de ski à bosse, et
c'est appelé vrai,
bosse. Et donc là, c'est un roman tout à fait personnel, qui vient évidemment de son expérience vécue, alors qui est composé de deux éléments, si vous voulez, qui se rejoignent. Le premier est un récit de son 2 mois d'hospitalisation, donc... De la Toussaint jusqu'à Noël, hein, grosso modo, de lutte contre une bactérie particulièrement méchante, et non un virus, comme le titre ne l'indique pas, qui s'appelle Staphylocoque doré, qui existait avant l'homme sur la Terre et qui peut-être probablement existera après. C'est donc une atmosphère d'hiver, où chaque chapitre est plus ou moins ouvert par le vol des corneilles à travers ce qui est pour lui le monde, c'est-à-dire le cadre de sa fenêtre. Hein, comme il dit, c'est sa télévision.
Oui,
donc, cadre réduit à une fenêtre et à une chambre d'hôpital. Alors, le personnage dont il est question, on apprend progressivement que c'est un journaliste pigiste d'un journal pyrénéen d'une cinquantaine d'années qui se qualifie lui-même de loser, mais peut-être qu'on en reparlera, et dépressif, qui n'a eu que la chance de naître un 25 décembre. Alors l'entourage, c'est l'entourage de l'hôpital, donc Johanna, l'infirmière, Angélique, la femme de service. Il y a un frère, sa mère qui vient le voir, qui est quelqu'un d'important pour lui, sa compagne dont on reparlera, Sandra, qui lui porte des livres parce que c'est un grand lecteur, et un ami qui vient par intervalle, qui s'appelle Francis, dont évidemment on reparlera puisque comme le dit Sandra au début du roman, il avait le projet d'écrire l'histoire d'un héros révolutionnaire qui aurait été ce Francis. Et en fait, donc, ce long séjour pénible, ennuyeux, lourd, angoissant, parce que la mort est à l'œuvre quand même, à l'hôpital, l'incite à se remettre à écrire. Donc le deuxième élément, c'est un carnet de Moleskine. Qui est destiné en fait à sa femme quand il ne sera plus là, hein, et qui comprend une trentaine d'épisodes écrits à la première personne, donc qui ponctuent le récit en bousculant complètement la chronologie. Comme il dit, ce sont des mémoires de A à Z, mais en sautant quelques lettres. En fait, c'est le dévoilement progressif d'un passé qui a du mal à passer. Hein. Et comme il dit, à un moment donné, de plus en plus, il s'exile dans cette marche arrière, dans les souvenirs. Alors ces souvenirs, ils sont de plusieurs ordres, donc on va les reprendre peut-être thème par thème. Il y a d'abord l'exil, puisqu'il vient d'Algérie, hein, dans les années 60, dans son jeune âge. Ensuite, il y a toute ce qu'on appellera l'éducation sentimentale, ou la vie amoureuse, et c'est... ses hauts et ses bas, et puis donc cette aventure politique avec son ami Francis, ou sans son ami Francis. Mais on va peut-être reprendre tout ça. Mm-hmm. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à ton projet, je veux dire
Non, dire simplement que c'est un roman, comme je l'ai dit tout à l'heure, générationnel. C'est-à-dire, je me suis un peu efforcé d'avoir aussi un œil sociologique sur une génération qui est arrivée à l'université au début des années 70, 30 ans après 68, et donc dans une ambiance assez particulière, une université très politisée, avec nombre de courants, une multiplication de tendances diverses et variées, et aussi les prémices de ce qu'on a appelé la libération sexuelle, mais qui fait que les gens qui venaient comme moi, donc j'étais témoin d'une situation que je ne maîtrisais pas, venaient de milieux périurbains ou ruraux, et qui étaient comme très maladroits face à cette situation, qui ne savaient pas gérer leur liberté, cette liberté nouvelle, et surtout ce que cela pouvait produire.
Ouais. Donc, voilà. Et alors, dans le cas précis, d'autant plus que tu as cet héritage d'un exil,
oui, de l'exil
fondamental, oui. Puisque, comme tu dis, tu te retrouves parmi ces enfants déracinés par les guerres, mm-hmm. ce qui ne manque pas. Et donc, toi, c'est la guerre d'Algérie, oui, dont on devine très bien, mm-hmm. hein, et ton départ d'Oran à la fin de 1961 pour c'est arriver
une famille béarnaise,
en Béarn. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, quels sont les rapports avec tes collègues à l'école?
Ils ont été extrêmement douloureux, puisque...
Enfin, je dis toi, c'est ton personnage.
Mais je parle le personnage. Voilà. Le personnage, il est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mélange, comme j'ai toujours fait dans mes précédents romans, je me sers des matériaux oui. autobiographiques, mais aussi d'autres personnages que j'ai rencontrés et qui font que... J'essaie de produire en quelque sorte des personnages qui vont représenter une génération.
Mais cet élément-là est quand même.
Cet élément est fort. Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas faire l'économie de cela, car sinon on ne peut pas comprendre l'évolution du personnage. Hein. Ce déracinement, il est douloureux à plus d'un titre, puisqu'il est d'abord séparé de ses parents, et de surcroît, il vient d'un milieu extrêmement modeste et il n'a rien, il n'a pas de patrimoine. Le seul patrimoine qu'il possède, c'est la langue de ses grands-parents, l'espagnol et le catalan. Et au fond, quand il débarque dans cette famille béarnaise, il est totalement perdu, à plus d'un titre. Ce qui l'oblige à faire des efforts continus pour comprendre ces gens qui l'accueillent. Puisque c'est deux civilisations totalement différentes. La preuve en est, c'est que les climats, enfin, qui sont totalement à l'opposé. Donc tout ça donne à ce Daniel, c'est une course de 110 mètres ou de 5000 mètres, oui. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'obligation de sauter des haies, et puis il en saute, puis il en trouve un. Donc il a de grandes difficultés à s'adapter dans le monde où il se trouve. Et donc, c'est pour cette pour-là qu'il dit qu'il est loser, car il a affaire d'abord à lui-même. Et c'est cela qui le met...
Il a aussi affaire à, finalement, beaucoup de femmes.
Oui, exact.
Et alors, de manière très contrastée.
Exact. Alors, bien sûr que le personnage... est à l'image d'une certaine période qui n'a guère duré, puisque enfin, on peut considérer que 10 ans après, il y a le sida. Et donc, qui font que, je parlais tout à l'heure de libération sexuelle, c'était surtout une fuite en avant d'aventures qui ne sans lendemain, pour la plupart. Et le mariage, enfin, une espèce d'aboutissement... que l'on dirait conformiste, toute aventure amoureuse, était loin d'être leur préoccupation première. Hein. Et donc, il y avait une espèce de vision machiste, c'est-à-dire le tableau de chasse de chaque... et surtout dans le milieu d'extrême-gauche, parce que d'aucuns adhéraient à certaines organisations religieuses, parce qu'il y avait de jolies filles bourgeoises, paloises, ou bayonnaises, ou tarbaises, ou... Toulousaine, bordelaise, parce que les filles venant de milieux ruraux étaient extrêmement prudentes, elles avaient peur de tomber enceintes, et puis elles voyaient mal aller demander au planning familial une boîte de pilules. Elles étaient extrêmement terrifiées, pour en avoir connu un certain nombre. Donc, c'était sans lendemain à plus d'un titre. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi. C'est une période, je le disais tout à l'heure, l'université, bon, qui est celle de Pau, mais qui aurait pu être celle d'autres villes de moyenne, c'était quoi? C'est pas de voiture sur le parking de la cité étudiante. Aucune voiture. Des vélos, 2 ou 3 vélomoteurs. Pas de portable, bien évidemment. Une seule cabine téléphonique où on faisait la queue des heures, à pièces, d'ailleurs. Et aussi, une salle de télévision qui était très, très courue. Il fallait prendre, arriver de bonne heure pour pouvoir regarder. Bien évidemment, le feuilleton le plus couru était Les Envahisseurs. J'en ai un souvenir marquant parce que tous répétaient en chœur le générique. Alors, ça prenait une tournure comique. Oui. Voilà, donc c'était un hiver qui n'est plus le nôtre. Et donc, les étudiants aujourd'hui, je crois savoir, d'après ce que j'en sais, ont tous une bagnole, ou du moins, sauf les étudiants modestes. Mais voilà, donc c'est une ambiance particulière. Et aussi, comme je disais, la multiplication des possibilités de militer. C'est-à-dire, ça allait du parti communiste marxiste-léniniste français, c'est-à-dire les maoïstes pur sucre, aux maoïstes spontanéistes, aux gens, aux trotskistes internationalistes, aux trotskistes lambertistes, dont M. Mélenchon faisait partie, avec d'autres, Jospin, tout à bonne, et aussi, bien sûr, des jeunesses communistes, des socialistes, et puis l'UJP de temps à autre, et le Rassemblement des droites nationales, où il y avait un vieux un groupe monarchiste. Voilà. Donc tout ça, c'était comme un supermarché de la politique, et chacun devait se situer. On avait l'obligation de se dire politisé. Voilà.
Mais je reviens quand même à cette ambiance que tu décris de facilité, de contact, etc., de liberté sexuelle. En tout cas, pour ton personnage, ça n'est pas si simple que ça.
Ah non, c'est pas si simple que ça. Justement, lui, il est confronté à une réalité qu'il n'arrive pas à contrôler, ou du moins à comprendre. Il n'arrive pas à le comprendre, tout cela. Parce qu'il pèse sur ses épaules toute l'éducation chrétienne et très moraliste. Et je dis souvent qu'il y avait la morale laïque de nos instituteurs et il y a aussi la morale catholique de nos prêtres. Et donc, il y avait une espèce d'alliance objective, comme dirait ce cher Karl Marx, entre deux morales.
Oui, mais du coup, on découvre avec surprise qu'une panne sexuelle, c'est-à-dire quelque chose qui peut arriver
à tout le monde, peut
avoir des effets tout à fait
désastreux. Oui, tout à fait.
Et entraîner une dépression.
Une dépression, effectivement.
L'abandon de l'étude.
La panne sexuelle arrive parce qu'il y a un élément tout à fait perturbateur, extrêmement important. C'est que le papa qui est un peu troublé psychologiquement, c'est le moins ce que l'on puisse dire, vient frapper à la porte alors qu'il est en train de faire l'amour avec sa copine. Alors
et donc, ça implique...
Il y a une castration paternelle épouvantable. Ouais.
Avec des conséquences.
Avec des conséquences, effectivement. Mais je pense que, avec le recul que je peux en avoir il y a cela plus de 40 ans, l'essentiel des étudiants que je fréquentais, étudiants basques ou béarnais, avaient les mêmes problèmes que les miens. Il n'y avait que les gens issus de la très haute bourgeoisie paloise qui avaient déjà une conscience claire de ce que pouvait être une vie sexuelle libérée. Voilà, ils étaient différents d'eux, ils étaient très différents. D'abord, ils ne restaient pas sur place, ils rentraient chez eux. Nous, on était confinés dans notre chère cité étudiante. C'était en fait un petit moyen internat. Enfin.
Alors, ceci dit, bon, l'action ne se déroule pas que dans ces années.
Ah non, pas du tout, parce que
il y a un continuum historique. Sur le plan sentimental, il y a la rencontre avec Sandra qui est importante.
Oui, c'est au fond, le roman dit que les femmes peuvent sauver éventuellement les hommes qui ne se sauvent pas eux-mêmes, et toujours même. Et c'est ce que je dis. Un des messages que je délivre dans le roman, c'est cela. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, il est sauvé. Chaque fois qu'il est sauvé, il est sauvé d'abord par sa maman, puis après par toutes ces femmes qu'il connaît.
Même quelquefois par des gens de bonne fée.
Voilà, des bonnes fées qui tombent. Là.
Voilà. Alors, notamment lorsqu'il lui arrive des ennuis politiques, enfin, lorsqu'il est embarqué un peu contre son gré dans les aventures politiques de Francis, qui est à la fois son double, son copain d'enfance, etc., et son contraire. Quoi.
Son contraire parce qu'il est, c'est un chef reconnu par la communauté des étudiants qui le côtoient.
Issu d'un milieu social
bien assis, avec un patrimoine, etc. Et bien évidemment, lui, en plus, qui plus est, il a lu. Il a lu des choses que Daniel n'a pas lues. Donc, par exemple, Guy Debord, enfin, il a toute cette littérature, Marcuse, Marx, etc. Et donc, il a une pensée politique extrêmement structurée, ce qui fait que le pauvre Daniel, il est toujours à la ramasse. Quoi. Oui. Toujours, et donc, effectivement, ce Francis, étudiant à Bordeaux, il est ingénieur en informatique. Et donc, factuellement, il va prendre conscience qu'il ne sert à rien de se battre au niveau national. Pour lui, c'est le franquisme. Hein. N'oubliez pas que cette période franco est encore... Oui, il faut aider le peuple basque à se libérer. Et donc, il va petit à petit, pour des raisons en même temps sentimentales et politiques, prendre toutes les causes pour le mouvement, pour la état politico-militaire, c'est-à-dire la branche non militaire, puis après, petit à petit, il disparaît bel et bien. Tout le monde, plus personne ne sait où il se trouve, mais en fait, il aide la ETA, un commando de la ETA, par ses compétences informatiques.
Et là, il y a un épisode important, c'est... Toi, tu es pigiste, donc tu essaies de faire ton trou. Oui. Enfin, le personnage,
oui. Excusez-moi. Je n'ai jamais été pigiste.
Voilà, tu n'as jamais été pigiste. Le personnage essaie de faire son trou, et donc, après avoir refusé une première fois, accepte de Francis de faire l'interview d'un chef de l'ETA.
Oui, oui, d'un chef de l'ETA, qui est dans la clandestinité. Et alors, évidemment, pour lui, c'est une raison... C'est l'occasion rêvée d'avoir une promotion dans son journal et de se faire valoir, et donc de revenir à son journal avec une interview que nul n'a pu obtenir par ailleurs. Mmh. Et donc, voilà, Francis lui indique toutes les modalités pour permettre de rentrer en contact avec ce personnage. Donc. Et hélas... À la veille de cette rencontre, dans le même immeuble se trouve Francis. Il ne le sait pas. Et la jeune fille qui l'a accompagné lui dit qu'il n'a pas le droit de monter au troisième. Et là, la police politique espagnole, Los Riches, monte et arrête Francis et sa compagne. Et donc, il assiste, impuissant, et en même temps, lui se sent profondément lâche, à l'arrestation de son meilleur ami.
Il a un sentiment de culpabilité.
Et alors, il a une culpabilité, déjà, qu'il en a une sacrée dose. Là, c'est une culpabilité supplémentaire. Et donc, il va porter cela comme une croix, et il va s'efforcer de l'aider à sa manière. Donc, il va lui écrire, lui envoyer des livres, et aider sa maman, qui est obligée de vendre une partie de son patrimoine pour pouvoir payer les avocats, etc. Il y a tout un processus de... Cette culpabilité va le mettre en situation de dépendance par rapport à ce Francis. Et donc, fatalement, quand Francis revient, il est libéré, c'est un homme détruit, alcoolique au dernier degré, et donc cet alcoolisme, cette violence qu'il a envers cette rancœur envers la société, envers tout le monde, le pousse à une violence inouïe. Et Daniel, qui sait se battre, parce que ça vient de son extraction modeste, il se bat souvent, et jusqu'au jour, il le bastonne à tel point qu'il le laisse sur le carreau, et donc le met dans sa voiture, le ramène, et ne lui parle plus. Et donc c'est à partir de là où Daniel va comprendre qu'il y a une... qui peut gagner sa liberté face à cet homme. Voilà. Hélas, la maladie va le rattraper.
Et là arrive le staphylocoque.
Le staphylocoque doré.
Qui va modifier tous les rapports entre tous les personnages.
Tous les personnages vont être transformés, tous les rapports.
L'action se passe au début des années 2000. Donc,
mais c'est ça.
Et donc, tous ces rapports avec sa mère, avec son frère... avec qui il n'avait vraiment aucun contact.
Son frère est un insupportable personnage, mais c'est son frère malgré tout. Voilà, il y a là...
Et avec Francis, finalement.
Avec Francis. Ouais. Et Francis, bien évidemment, qui après sa libération, aidé par son frère, va tenter, alors c'est très paradoxal, de prendre sa revanche sur l'Espagne et sur ce qu'il a enduré, parce qu'il a enduré quand même la torture blanche, hein, parce que... dans les prisons espagnoles, jusque dans la fin des années 80, on pratiquait ce qu'on appelait la torture blanche. Ça m'a été compté par deux personnes qui ont été incarcérées à Alcalá de Henares ou à Alicante, la prison d'Alicante. On réveillait à 3h du matin les gens et les personnes incarcérées, et politiques, hein, Et on leur mettait un bandeau sur la tête et on leur mettait un pistolet dans la bouche et on enclenchait le pistolet. Et après, bien sûr, on refermait le... On ne le tuait pas, bien évidemment. Et donc ça, c'était répété pendant une période. Et bien sûr, au bout de 4 ou 5 exercices de ce type, les gens étaient totalement détruits psychologiquement. Donc voilà. Donc lui, il arrive avec cette... Oui, c'est un homme totalement déchiqueté. Il lui faut prendre une revanche sur lui-même et une revanche aussi qui ne soit pas violente. Et parce qu'il comprend bien que la violence de l'État est une impasse totale et que ça ne peut que produire une autre violence, la violence de l'État avec un T à la fin. Et donc, le personnage, il cherche à tout prix à essayer de... Il y a aussi une forme de rédemption dans cette volonté de poser un acte positif. Et il achète, avec son frère, ils achètent un hôtel dans les Asturies. Et c'est pour cette raison que Daniel, qui est dans sa chambre d'hôtel, lui aussi incarcéré, attend de Francis qu'il lui dise la vérité sur son arrestation, puisqu'il y a encore cette culpabilité. Et Francis lui doit la vérité. Et à la fin de l'ouvrage, je ne dévoilerai pas la fin, il se passe quelque chose d'extrêmement important entre ces deux personnages. Voilà.
C'est ça qui est permis par ton dispositif.
Entre alors, avec les deux récits, ça permet...
Et le carnet qui permet le dévoilement progressif et qui maintient l'intérêt de la lecture jusqu'au bout, oui. C'est sûr. Alors, je voulais savoir comment tu en es arrivé là, parce que si je me souviens bien, tu avais commencé par un récit à la première personne.
Oui.
Et donc, qui était beaucoup plus collé à une réalité vécue. Exact. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi est-ce que tu as modifié?
Parce que j'ai vu que c'était une impasse totale au niveau littéraire et que, qui plus est, je n'arrivais pas à... C'était la première fois que cela m'arrivait, à bâtir un récit qui soit tout à fait autonome par rapport aux éléments autobiographiques que j'avais. Donc la seule manière de bâtir ce type de récit, c'était effectivement de passer au narrateur. Après, j'ai eu cette trouvaille du carnet, du journal.
Qui permet de...
Voilà. Mais c'est vrai sachez que j'ai mis 5 ans pour l'écrire. Je ne sais pas finir les choses, alors c'est pour cette raison que...
Non, mais on retrouve quand même, si tu veux, ce qu'on avait trouvé, par exemple, dans ton roman que j'aime beaucoup, là, puisque je l'ai traduit, d'ailleurs, qui s'appelle L'heure de partir, là, qui est L'heure de partir d'Algérie, où tu racontais ces derniers mois à Oran. Là, et tu sais à la fois mélanger un récit très personnel, très intime, très... Et un fond historique qui n'étouffe pas, mais qui est présent en filigrane.
Bon, il faut dire aussi que j'ai été comme toujours très tardif, puisque mon premier roman, j'avais déjà 46 ans quand mon premier est apparu. D'abord, il y avait un problème de linguistique, il fallait que je maîtrise la langue occitane, donc gascon. Et cela, c'est que je pense qu'il y a un accouchement à toute œuvre, et donc des fois il dure. Et le forcer n'y fait rien.
Et question langue, là, je te faisais remarquer malicieusement tout à l'heure que quand tu dis la maladie a atteigné son dernier grade, c'est de l'occitan. En français, on dirait plutôt degré.
Guy m'a fait remarquer que j'avais continué à faire quelques gasconismes. Après, ceci dit, je voulais aussi montrer une société béarnaise. Parce que c'est la seule que je connais correctement. Je ne suis pas un grand voyageur, comme a dit ma mère. L'exil pousse les gens ou à voyager ou à rester sur place. Moi, j'ai fait le choix inconscient de rester sur place, de m'enraciner. Et donc, incontestablement, pour avoir depuis tout gosse vécu la situation d'un Béarn néo-rural, rural, une petite ville, un bourg-centre à 300 mètres d'altitude, éloigné de tout... à quelques kilomètres de Lourdes. Voilà, j'ai vu qu'est-ce que pouvait être l'intégration de gens qui n'étaient pas béarnais. Je ne l'étais pas moi-même. À l'école primaire, je veux dire en occitan, Keigat Prou, j'ai pris.
Tu as dégusté.
J'ai dégusté, voilà. J'ai eu droit à Youpin, Raton, Melon, Colomb, and so on. Mais c'est normal, j'étais le seul garçon qui n'avait pas l'accent que j'ai aujourd'hui. Un accent pied noir, je parlais avec mes mains. J'étais un peu agité du bocal aussi. Hein, donc pour eux, c'était un enfant totalement étranger au sens premier du terme. Et donc, fatalement, c'est très dur de... Mais comme mon père était communiste, mais les autres aussi, il y avait beaucoup de communistes, hein, ça votait à 35% parce que c'est une ville ouvrière. Mais mon père n'arrivait pas à s'entendre les communistes naillés parce que lui, il était plutôt de tendance espagnole et catalane. Et donc, fatalement, voilà, j'ai voulu décrire cette ambiance.
Oui, cette parle d'ailleurs de leur... de l'étrange droit du sang,
voilà.
qui implicite.
Oui, implicite. Ah, voilà, hein. Bon, bien sûr qu'ils jouent à la manie ensemble,
au rugby
ensemble, mais il reste toujours quelque chose qui fait que, au fond, il faut que le temps passe pour que l'intégration se fasse, pour que les gens oublient l'origine.
Ah, ouais. Ben, je me souviens, si je peux. Me rappeler de ça, d'une certaine chanteuse béarnaise, d'origine
brillante.
Béarnaise, s'indignant que ce monsieur, qui n'était pas béarnais de souche, se permette d'écrire en béarnais. C'était...
Et oui.
Ça existe. Hein.
Ça existe, voilà.
Ça existe.
La xénophobie est chose la plus universelle.
Alors évidemment, tout ce roman tient aussi son intensité du fait qu'il se passe avec la présence de la mort toujours possible. Hein, et que ça oblige à percevoir les choses d'une manière un peu différente.
Et puis je pense que Daniel, ayant comme nombre d'êtres humains sur Terre, accumulé les petites lâchetés et les grandes lâchetés, là il est dans l'obligation de ne plus être lâche. Et d'affronter la mort, parce qu'il faut qu'il l'affronte. Et c'est ce qui le pousse à être sincère dans son récit, dans son petit cahier. Et parce qu'il se dévoile quand même. Hein, on voit un personnage qui est quand même un loser, oui. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le gage de l'amour qu'il porte à Sandra.
Oui, la lettre finale.
Et la lettre finale, elle montre la chose. Ceci dit... je pense que c'est un roman moins noir que les lecteurs veulent bien me le dire.
Mais à la fin, il y a l'espoir. Il va à Bordeaux.
Il va à Bordeaux.
Il sera sauvé.
Il va à l'hôpital à Bordeaux. Tout est permis. Il y a une dame, grosse lectrice, je racontais une anecdote là où j'habite, à la poste. J'envoyais d'ailleurs des virales en service de presse parce que l'éditeur ne pouvait pas le faire. Et je sors de la poste et cette dame me dit « Ah, monsieur Jalouet, dites-moi, il n'est pas mort quand même. » C'est très marrant.
Voilà. Bon, voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui,
mais allez, lis. Tout à fait. Vas-y.
Alors, qu'est-ce que,
avec plaisir.
Qu'est-ce que je lis, à ton avis ? Ah, j'aimerais lire le... Oui, ça, c'est très court. 47e jour. L'hôpital se réveillait. Le vent soufflait à nouveau en rafale. Daniel finissait son petit déjeuner. La nausée avait disparu. Depuis sa sortie du coma, il se sentait très affaibli, mais s'obstinait à croire que la vie serait la plus forte. Il alluma la télé... Des membres des commandos des forces de sécurité irakiennes ont pris position à Mossoul. Daniel ne comprit pas ce qui s'y passait, baissa le son avec la télécommande. Il se plongea dans un ouvrage sur les arbres du pays qui lui avait offert Sandra. Il y apprit que le mimosa, l'acacia d'Égypte venu de Tasmanie, avait été introduit récemment dans les Pyrénées. Quelques instants après, il écrivit ce qui lui était venu brusquement en tête. J'ai toujours aimé les mimosas en fleurs. C'est comme si le printemps venait annoncer à l'hiver sa mort prochaine. Je me souviens qu'en décembre 1962, du mimosa que le père Dan avait planté avant la guerre était couvert de neige. La veille de Noël, la température était descendue à -15 et le bel arbre ne l'avait pas supporté. Au printemps, la mort dans l'âme, Pierre l'avait abattu. Lors de ma dernière visite chez Anne, en mars dernier, j'avais fait le tour du jardin et avais constaté que ces rejets étaient devenus un autre arbre magnifique. J'ai cueilli un rameau de fleurs et l'ai offert à Anne. Il est encore là ? Je croyais que Pierre l'avait coupé. Les bourrasques devinrent plus violentes. Daniel se leva avec l'aide d'Angélique. Il se lava, se rasa, il saigna un peu. Il examina son visage. Il parut changé. Il avait certainement vieilli. Il alla près de la fenêtre. Il s'y tint debout avec l'aigle des béquilles. Il chercha au nord les deux cèdres du Liban, dirigea ensuite son regard sur les chênes du bois de la Reine secouées par le grand vent d'Espagne. Il s'assit dans le fauteuil face à la fenêtre et regarda le ciel sans nuages. À 9h, Johanna fit sa visite matinale. « Comment va ? Pas terrible, la fatigue ne me lâche pas. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas durer. »
J'aime aussi beaucoup certains passages de rêve, puisque la situation et puis la fièvre favorisent ce genre, le fait délirer. Et il y a des choses très étonnantes. Tu les écris quelquefois, d'ailleurs, à la deuxième personne.
Oui, volontaire, oui.
Tu dors sur un vieux matelas éventré, jeté près d'un ruisseau boueux, près d'une décharge sauvage. Ce lit de fortune est placé auprès d'un vieux chêne. À tes côtés, Pierre Abadie, c'est-à-dire celui qui l'a accueilli.
Il l'a accueilli, oui, son père adoptif.
Te crie « Je suis mort, as-tu entendu ? Mort, bien mort !» Tu es en guenille, laissé pour compte. Le vent souffle en tempête. De l'autre côté, c'est une immense prairie où paissent des vaches blondes. Et toi, tu les appelles, et elles arrivent. « J'ai chaud, et toi ?» dit Pierre. Tu ne sais pas quoi lui répondre. Tu te sens pitoyable. Bon, c'est petit, mais c'est très, très bien enlevé. Voilà.
31e jour. Les longues journées pluvieuses de novembre l'avaient accablé. Le beau temps hivernal s'installait enfin. Daniel était soulagé. Ce grand ciel était la paix retrouvée. On lui fit une prise de sang. Il eut du mal à prendre son petit déjeuner. Il avait mal dormi vers 15h. Le va-et-vient des infirmières l'avait réveillé. Elle s'était sans doute occupée de la jeune fille de la chambre d'à côté. À 22h, Jean l'appela. « Tiens, avant-hier, j'ai oublié de te dire. Je suis allé voir Anne Abadie. Je lui ai dit que pour toi, elle était très triste. Tu sais, elle perd la mémoire. Mais dans un moment de lucidité, elle m'a dit combien elle avait été émue quand nous nous sommes pointés en juillet 62 avec maman. Je t'en dirai plus demain. À demain, si Dieu veut, comme dit maman. » Daniel reprit son cahier et revint sur le récit de leur arrivée chez Anne et Pierre. Ce matin de juillet 1962, il faisait une chaleur étouffante. Anne, ma mère adoptive, chez qui mes parents m'avaient envoyé fin 61, s'en plaignait. Elle n'avait jamais aimé la touffeur de l'été béarnais. Depuis le début de la matinée, elle réclamait un orage qui ne venait pas. Anne, prévenue par un télégramme envoyé par ma mère depuis Port-Vendres, où elle était arrivée la veille, avait tout prévu. Leur chambre était prête dans les appartements loués l'été aux estivants. Sur le coup de 17h, ma mère s'est présentée avec Jean devant le portail des Abadie. J'étais sur le seuil de la maison, derrière la porte entrebâillée. J'étais inquiet. Le taxi était reparti aussitôt. Ma mère était à une vingtaine de mètres. Un jeune homme se tenait à ses côtés. Je les observais. Était-ce bien elle ? Où était mon père ? Lui, il m'a semblé avoir plus de 18 ans, très grand, maigre, à faire peur, des cheveux très courts, un visage long, livide, aux traits marqués, comme si mes parents avaient adopté un inconnu pendant mon absence. Pierre Abadie est sorti du garage où il bricolait. Il s'est dirigé vers eux, a ouvert le portail pour les laisser entrer. Ma mère a hésité quelques secondes, puis, comme elle l'avait toujours fait, s'est avancée et lui a serré la main. Elle s'est dirigée alors vers la porte d'entrée. Je pense qu'elle m'avait aperçu. Elle m'a souri et m'a fait un signe de la main. Mon cœur a commencé à taper. Je transpirais. Le vent a soulevé sa robe. Jean s'est mis en retrait. Pierre s'est saisi de la valise et les a invités à entrer pour se désaltérer. À deux pas de l'entrée, ma mère s'est arrêtée. Elle pensait sans doute que je devais aller à sa rencontre, mais je n'ai pas pu le faire. J'étais tétanisé. « Rentrez, l'orage ne va pas tarder, » a dit Anne. De sombres nuages s'accumulaient sur les Pyrénées. Sur la cime du cèdre, un merle sifflait. Ma mère a levé la tête pour le localiser, a semblé s'interroger sur l'existence réelle de l'oiseau. Avions-nous des merles là-bas ? Me suis-je dit. Jean a tiré sur la manche ma mère, elle l'a rassuré et l'a fait avancer en tapotant ses fesses. Il a refusé de faire un pas de plus. Elle l'a entraîné pour passer la frontière invisible de l'inconnu. Jean a pleuré quand il m'a vu près d'âme. Elle s'est criée « Bundiu ». Je comprenais sans comprendre. Tout me paraissait étrange comme dans un rêve. Cette femme mince aux cheveux longs était bien ma mère. J'allais donc encore déménager. Tout serait à recommencer. Ma vie serait-elle toujours ainsi ? Finalement, je me suis jeté dans ses bras, les larmes de ma maman tombaient sur ma tête. Elle m'a dit d'une voix dont j'avais oublié le timbre et la douceur, « Mon chéri, mon ange, que Dieu soit loué, te revoilà. » Alors là, j'ai fondu en larmes. Le soir même, je dormais dans le lit avec ma mère et mon frère. Dehors, la pluie nous berçait, enfin.
C'est un passage heureux, oui. Finalement, celui-là.
Oui, c'est heureux, oui.
Est-ce que tu comptes, voilà, dernière question, est-ce que tu comptes écrire un livre heureux ?
Oui. Je ne sais pas.
Je n'ai même pas dit joyeux, mais heureux.
Oui, il est commencé.
Il est commencé.
Oui.
Ah.
Mais on m'a commenté un livre, ça va vous faire sourire peut-être, ou vous surprendre, sur Bernadette Soubirous. Alors je suis en train de l'écrire. Ah. Ça serait une contre-enquête. Mais pas la Zola. Hein, pas la Zola. Zola considérait Soubirous comme une folle alliée. Il se trompait.
Écoutez, merci beaucoup de,
merci
votre,
beaucoup
de votre attention. Et bonne lecture, éventuellement. Voilà.
Si ça vous intéresse.